On s'approche de Noël, on va faire une petite pause dans notre série sur le livre d'Exode et on va aller justement voir ce matin un autre texte de la parole de Dieu. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus l'endroit où l'on naît. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Et le refrain... Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ? Vous avez peut-être reconnu les paroles de ce chant de Maxime Le Forestier. Alors ça date un petit peu, on passe quelques générations en arrière, 1980, mais qui a été remis au goût du jour en 2015, que 10 ans, par le groupe Trio, pour ceux qui connaissent aussi. Alors ces paroles nous touchent parce qu'elles résument une réalité que chacun de nous ressent peut-être au fond de lui-même. Nous avons tous une histoire qui nous précède, mais que nous n'avons pas choisie. Nous avons tous un arbre généalogique, mais personne ne l'a choisi. Aucun n'a déterminé le lieu de sa naissance, dans quelle famille il allait naître. Avec quelle bénédiction, ou peut-être, et bien souvent, quelle blessure, quel bagage. Alors quand on discute avec les uns et les autres, certains sont extrêmement fiers de leur famille et de leur lignée généalogique. Mais d'autres ont profondément honte, sont extrêmement blessés, et leur histoire ressemble davantage... à un fardeau, un poids qui les écrase. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des gens et en demandant un petit peu, en cherchant à les connaître et que vous parlez un petit peu de leur famille, vous les avez certainement entendu déjà dire « Ouh là là, mes parents ou ma famille, ce n'est pas un cadeau. » Et tout ceci nous laisse... bien sûr, avec des questions. Sommes-nous voués à rester enfermés par notre histoire ? Sommes-nous condamnés à reproduire notre histoire ? Quelle espérance nous reste-t-il ? Le texte qu'on va lire ce matin est souvent considéré comme la partie la moins passionnante de l'Évangile. On va aller dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu, disciple de Jésus, débute son évangile, qui, je le rappelle, signifie « bonne nouvelle », par une généalogie, la généalogie de Jésus. Quand on parcourt cette généalogie, on a affaire à une succession de noms, parfois difficiles à prononcer, pas souvent source d'inspiration quand on cherche le prénom de son futur enfant. Pourtant, il commence comme ceci, « Voici la généalogie de Jésus-Christ ». Et en fait, ça aurait pu être traduit par « Voici le livret de l'histoire de la famille de Jésus-Christ ». Et on va voir combien cette histoire de famille est porteuse d'espérance. Je vous invite tout de suite à la lecture de ce passage, Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérak de Tamar. Pérets eut Hetsrom, Hetsrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abija eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendants Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone, de l'exil. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shéaltiel. Shéaltiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abihud. Abihud eut Éliakim. Éliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Alors, il y aurait plus qu'on l'imagine à dire sur un tel passage. Mais j'aimerais seulement souligner ce matin trois motifs d'espérance qui ressortent de cette généalogie de Jésus. Ce premier motif, c'est que cette généalogie est marquée par la fidélité de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 1, je relis, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Alors on peut si rapidement zapper ce verset et tous les suivants. Mais pour le peuple d'Israël, pour les juifs, les premiers chrétiens juifs à qui étaient adressés les premiers destinataires de ce passage, les noms de David et d'Abraham renvoient à deux grandes promesses de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament. La première se retrouve en Genèse. Il est dit donc Jésus est fils d'Abraham. Sa lignée remonte donc jusqu'à Abraham, un homme qui était âgé d'environ 80 ans, marié à une femme à qui Dieu a promis une descendance par laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. Jésus est aussi fils de David. David, ce roi d'Israël, envers qui Dieu s'est engagé à ce qu'il y ait éternellement un roi de sa lignée sur le trône. Et à partir de là, de Abraham jusqu'à David, jusqu'à Jésus, on se rend compte, en parcourant l'Ancien Testament, que l'histoire du peuple de Dieu relate de belles choses, mais aussi toutes les limites humaines, toutes les erreurs, toutes les rébellions, l'exil, les guerres, les trahisons. Tout autant d'occasions de compromettre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et quand on parcourt ces histoires, on a l'impression des fois que tout semble ne tenir qu'à un fil. Mais Matthieu, en ouvrant ce livre d'histoire de famille, dit en quelque sorte, regardez, année après année, siècle après siècle, une génération de bras cassés après l'autre nous conduit immanquablement à Jésus-Christ, descendant d'Abraham et de la lignée royale de David. Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a tenu parole. Et là où la chanson de Maxime Le Forestier parle du hasard de la naissance, Je suis Pardon, je me suis juste perdu de ligne. Ouais, là où la chanson de Maxime Le Forestier parle du hasard de la naissance, la généalogie de Jésus nous parle de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas pris au dépourvu par les histoires de famille. Au contraire, il compose avec ses histoires. La naissance de Jésus met en lumière la fidélité de Dieu à ses promesses à travers les âges et à travers les générations. Deuxième motif d'espérance, on voit une généalogie marquée par la grâce de Dieu. Si chaque nom présent dans cet arbre généalogique de Jésus renvoyait à un héros irréprochable, nous pourrions penser que Dieu ne travaille qu'avec des gens exemplaires. Mais ce n'est pas vraiment le cas, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui, c'est plutôt assez facile de tricher sur son curriculum vitae si on veut se faire embaucher, c'est beaucoup plus compliqué de le faire sur un arbre généalogique. Et cette liste de noms est une mosaïque de vies compliquées, abîmée, douloureuse et parfois même immorale et scandaleuse. Déjà, on se rend compte dans cette liste de noms que plusieurs femmes sont mentionnées, ce qui est extrêmement surprenant dans une société à l'époque très patriarcale où les femmes étaient peu valorisées, et c'est peu de le dire. Tamar, on retrouve son histoire dans Genèse 38. Une femme vulnérable, trahie, qui va coucher avec son beau-père pour se faire justice. Rahab, une femme prostituée de Jéricho, étrangère au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Ruth, une femme veuve, aussi étrangère, venant de Moab, un peuple considéré comme impur aux yeux des Israélites. Bathsheba, qui est mentionnée dans ce texte comme la femme d'Uri. En fait, c'est une manière très subtile de la part de Matthieu de nous rappeler que les péchés du grand roi David ne sont pas anodins. Que ce roi qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël a aussi commis l'adultère avec cette femme et le meurtre en tuant le mari de cette femme. Les hommes ne sont pas meilleurs. On pourrait ajouter idolâtrie, on pourrait ajouter corruption. Je crois qu'on coche là toutes les cases et au-delà même de ce qui correspondrait aujourd'hui à une famille dysfonctionnelle. Cette généalogie est tout sauf un pédigré royal impeccable. Matthieu ne cache rien de tout cela. Il est transparent. Il les laisse là, noir sur blanc, comme pour dire « Cette généalogie de Jésus est un tableau de la grâce de Dieu. » Par ses péchés qui font partie de l'histoire de son peuple, Dieu veut non seulement rappeler la nécessité d'un sauveur, mais aussi que son choix d'entrer en relation avec des êtres pécheurs est toujours dû à la grâce. Encore une fois, la chanson de Maxime Le Forestier souligne que nous ne choisissons pas notre famille. Je ne sais pas vous, mais moi je suis soulagé de savoir que Dieu a choisi et savait exactement qui ferait partie de la lignée de Jésus, avant même la création du monde. Il a choisi des gens que je n'aurais jamais choisi. Il a utilisé des histoires que j'aurais certainement tenté de cacher. Il ne choisit jamais des personnes en fonction de leur qualité ou de leur aptitude morale, mais parce qu'il les aime. Et si on va plus loin dans la parole de Dieu, qu'on bascule dans le Nouveau Testament et dans la lettre aux Hébreux, on se rend compte que plusieurs noms de cette généalogie sont mentionnés dans le chapitre 11 aux Hébreux. Non pas pour leurs grandes œuvres, pour leur réussite, pour les capacités qu'ils avaient, mais pour leur foi, pour leur confiance en Dieu et pour leur confiance en ce que Dieu avait promis et de savoir qu'un jour, Dieu accomplirait les promesses qu'il avait faites. Une généalogie marquée par la fidélité de Dieu, une généalogie marquée par la grâce de Dieu. Enfin, une généalogie marquée par le repos de Dieu. Au verset 17, il est mentionné 3 fois 14 générations. 14 générations de Abraham à David, 14 générations de David à l'exil, à la déportation, et 14 générations de la déportation à Jésus. Ce qui nous fait 3 fois 14, 42 générations. 42 générations. Le pasteur et théologien Tim Keller souligne que ça fait donc 6 fois 7 générations, ce qui place Jésus au début de la 7e génération. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, le chiffre 7, pour ceux qui connaissent un peu dans la Bible, a une symbolique très forte, un sens très fort. Et la première chose à laquelle ce chiffre nous renvoie, c'est le fameux 7e jour de la création, où Dieu s'est reposé, où il a cessé toute activité après avoir créé le monde en 6 jours. Un peu plus loin, dans la loi de Moïse, Dieu avait ordonné que les terres agricoles, les champs, soient mis en jachère tous les 7 ans pour leur permettre de se reposer, de se régénérer. Et dans Lévitique 25, la dernière année d'une série de 7 fois 7 ans, donc la 49e année, c'était l'année du jubilé, du grand jubilé, une année durant laquelle tous les esclaves étaient remis en liberté. Toutes les dettes étaient remises, effacées, annulées. L'objectif qui était visé par cela, c'était de libérer les personnes de tout leur tracas, de tout leur fardeau, de tout ce qui pèse dans leur vie. La 7e septaine, c'est donc le sabbat des sabbats, le repos des repos. Et en plaçant Jésus au début de la 7e septaine, Matthieu affirme certainement que la naissance de Jésus inaugure un temps de repos qui est offert à tous. Plus loin dans sa chanson, Maxime Le Forestier chante « Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. » Matthieu nous dit que Jésus est né pour offrir à chacun un nouveau repère. Par sa naissance, Jésus inaugure une nouvelle ère pleine d'espérance. Jésus est le descendant d'Abraham par excellence, l'Israélite parfait qui est venu sur la terre pour offrir à tous une place dans sa famille, quel que soit notre sexe, notre nationalité ou notre rang social. Jésus est le roi par excellence de la lignée de David, venu sur la terre pour nous inviter à vivre sous son règne. Jésus est le Dieu sauveur, venu sur terre parce qu'il nous aime. Il offre par grâce une place dans sa famille à toute personne qui reconnaît son péché qui s'en repent et qui croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés et ressuscité 3 jours après. Jésus est celui qui offre le repos à tous ceux qui sont fatigués de chercher un sens à leur vie, éprouvés par les fardeaux qui pèsent sur leurs épaules, lassés par le mal présent en eux ou dont ils sont victimes. Maxime Le Forestier a raison. On ne choisit pas sa famille ni le lieu de sa naissance. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus nous invite dans sa famille. Et si tu n'en fais pas encore partie, je prie que Dieu dispose ton cœur à faire ce choix. Cette famille, c'est une famille pleine d'espérance. Parce qu'elle est marquée par le repos. Peut-être que tu vis dans une famille qui a mis ou qui met la barre haute, qui a de grandes exigences, de grandes attentes envers toi. Tu dois être excellent à l'école, à la fac, dans tes études. Il faudra que tu sois excellent dans ton travail. Et peut-être que ce matin, tu es épuisé par cette pression constante, lassé de devoir toujours faire tes preuves, fatigué de ne jamais te sentir à la hauteur. Tu dois toujours faire, faire, faire. Peut-être même que non seulement tu n'as pas choisi ta famille, mais pire encore, ta famille ne t'a pas choisi non plus. Tu étais un accident. Tu n'as jamais été aimé par tes parents qui préféraient peut-être tes frères et sœurs. Peut-être même que tu as été abandonné et que tu n'as peu, voire pas, connu tes parents. La famille de Jésus est marquée par le repos. Dans cette famille, tu es libéré de devoir faire pour exister. De toute façon, tu as bien compris que tu ne seras jamais à la hauteur, et c'est OK. Et c'est OK. Parce que nous ne faisons pas partie de cette famille en raison de ce que nous avons fait pour Jésus, mais de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et si nous faisons partie de cette famille, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un accident. C'est parce que Jésus nous a choisis et qu'il nous aime. Grand comme ça. Quel repos, n'est-ce pas ? Une famille pleine d'espérance parce qu'elle est marquée par la grâce. Peut-être que tu vis dans une famille dans laquelle non seulement tu fais face à ton propre péché, mais tu es dans une famille où tu as particulièrement subi celui des autres. Encore une fois, tu es blessé, marqué peut-être par des parents, par des frères et sœurs dysfonctionnels, loin d'être le modèle qu'ils auraient dû être. Et tu traînes ces valises dans ta vie. Tu reproduis volontairement ou non ces mêmes schémas. Nous sommes tous des bras cassés. Nous traînons tous dans nos vies des casseroles, tantôt responsables du mal que nous infligeons aux autres et tantôt victimes du mal que les autres nous font subir. La famille de Jésus est marquée par la grâce. Personne ne mérite d'en faire partie. Et si nous y sommes, c'est parce que Jésus a déjà payé pour nos erreurs et nos blessures. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libérés. Et ce pardon que nous avons reçu apporte une profonde restauration et une profonde guérison. Jésus se plaît à nous secourir et à nous reconstruire. Dans la famille de Jésus, nos relations sont aussi, ou en tout cas devraient être, marquées par la grâce. Nous pouvons demander pardon et accorder le nôtre à ceux qui nous le demandent. C'est un pardon qui libère, c'est un pardon qui restaure. Et avec l'aide de Jésus, nous ne sommes pas condamnés à reproduire les mauvais schémas ou nous cacher derrière ceci pour justifier notre manière d'être, pour justifier nos erreurs. Quand nous échouons, et à chaque fois que nous échouons, notre espérance, c'est que la famille de Jésus est aussi marquée par la fidélité. Celle de Jésus, pas la nôtre. Il nous a fait plein de promesses. Celle de nous pardonner quand nous reconnaissons, quand nous confessons nos fautes. La promesse de nous transformer à sa ressemblance. La promesse de nous garder fidèlement attachés à lui par la foi jusqu'à notre départ de cette terre ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Rien ne pourra mettre en péril ou compromettre l'accomplissement de ses promesses. Et la naissance de Jésus en est la preuve. Alors que cette période de Noël remplisse nos cœurs de joie, n'ayons pas honte, mais soyons fiers de faire partie de la famille de Jésus et saisissons les occasions de partager notre espérance à ceux qui n'en font pas encore partie. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut se réjouir en cette période de Noël, de se rappeler que tu es né, que tu t'es incarné, tu es venu marcher sur cette terre et tu t'es fait homme. Et merci pour ta vie, merci pour cette nouvelle vie que tu nous offres, merci pour cette adoption dans ta famille qui est encore disponible encore aujourd'hui pour celles et ceux qui s'en saisissent par la foi. Merci parce que tu connais chacun de nous, tu sais de quelles pattes nous sommes faits, tu connais nos histoires, nos joies, mais aussi toutes nos failles, peut-être les casseroles que l'on porte dans notre vie. Merci parce que tu as porté tout cela à la croix. Merci parce que tu nous as pardonné et parce que tu nous offres un nouveau départ, une nouvelle famille pleine d'espérance. Merci pour la joie d'en faire partie ce matin. Merci pour chacun de mes frères et sœurs présents ici. Merci parce qu'on a cette chose en commun. Et cette personne en commun, c'est Jésus-Christ, c'est toi. Pleinement aimé, complètement racheté, complètement pardonné. Merci pour cette grâce, merci pour ce cadeau. Et Seigneur, je te prie que voilà, beaucoup, en cette période de Noël, puissent le découvrir autour de nous. Amen.